et dire non, 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 non. Le fait que Dieu existe et que la pensée existe et que le sujet pensant existe et c'est de ça que tout part, ça n'est pas vrai. Ce dont on va partir, ce sont les observations. Et c'est des observations que l'on connaît les choses. Et alors, au-delà de ces observations, il y a des lubies, mais ce sont des lubies propres aux êtres humains. Par exemple, la causalité. Voilà, la causalité, qui est un truc qui interpellait beaucoup les philosophes et qui interpelle toujours beaucoup le médecin et le patient. À cause de quoi je suis malade ? À cause de quoi je suis malade ? Qui est une question redoutable et à laquelle le médecin ne peut jamais répondre. Hein, je peux vous donner une illustration clinique qui m'est arrivée, d'ailleurs qui pointe du doigt là aussi quelque part une des limites du savoir scientifique, de l'approche scientifique. C'était que j'étais interne, c'était un patient, donc je suis pédopsychiatre, c'était un petit patient qui venait pour un bilan de retard mental. Bon, alors le plus souvent il n'y a pas d'étiologie au retard mental. Et il y a quand même quelques étiologies, donc on peut faire un bilan, et on fait ce bilan, et puis il y avait un syndrome de l'X fragile, donc c'est une anomalie du chromosome X qui se traduit par un retard mental. Donc je reçois les parents, j'essaie de leur expliquer ce que c'est que la pathologie de leur patient, et puis le pronostic, et comment il va falloir faire pour prendre tout ça en charge. Et donc dans ma tête, moi de jeune médecin scientifique, j'avais la cause de la maladie. Là c'était une mutation sur un gène, donc c'est la cause de la maladie. Et au moment où j'explique tout ça, le papa se retourne vers la maman et lui dit « Tu vois, j'en étais sûr, c'est à cause de ta famille. » Ce qui est complètement vrai, puisque si c'est un X fragile, c'est la maman... Vous voyez, le papa a donné... C'est un petit garçon, il a donné son chromosome Y, c'est la maman qui a donné son chromosome X, et ça, c'est absolument indubitable, et que donc l'anomalie du chromosome X vient de la maman. Et donc, pour ce papa... Et là, moi, j'ai été sidéré parce que dans ma tête, causalité, ça ne voulait pas dire ça. Mais pour ce monsieur, c'était extrêmement important. C'est-à-dire que pour lui, causalité, c'était dans ma vie, j'ai fait un choix un jour, je me suis marié avec toi. Et si je m'étais marié avec quelqu'un d'autre, eh bien, je n'aurais pas eu cet enfant. Vous voyez comme la causalité peut être prise sous des angles complètement différents. Et le scientifique a tendance à l'oublier. De là, les philosophes empiristes... Qui disent cette histoire de causalité, c'est très humain, c'est un mot qu'utilisent les hommes pour essayer d'expliquer qu'après un événement, on en trouve systématiquement un autre. Voilà, ça on l'observe. Hein. Après quelque chose, on observe quelque chose régulièrement. Ça, c'est l'observation. Et puis vous, les hommes, vous dites que ce sont des causes, mais ça vous regarde et à la limite, ce sont des fantasmes. Et puis alors la pensée. Oui, la pensée, c'est un beau sujet, disent les philosophes empiristes. C'est un beau sujet, certes, mais après tout, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est peut-être une illusion, c'est peut-être autre chose, mais ça n'est pas un point central, finalement. Observons et discutons de ce que l'on observe. Alors, certes, c'est une approche, mais pour la psychiatrie et la santé mentale, ça pose quand même problème. Alors, comment cette histoire a été résolue? Elle a été résolue au XVIIIe siècle avec un grand philosophe allemand qui a eu une formule assez élégante en disant « Il y a des choses que l'on peut connaître par l'expérience, donc par la science, mais ces choses que l'on peut connaître ont des bornes, et au-delà de ces bornes, il y a des choses que l'on peut penser. Parmi ces choses que l'on peut penser et qu'on ne peut pas connaître, il y a Dieu, il y a le monde et il y a l'homme. Donc on peut les penser, alors on ne sait pas trop ce que c'est, on ne peut pas les connaître, mais comme on les pense, ça organise notre vie. Comme on sait qu'on peut penser Dieu, alors, eh bien, quelque part, ça peut organiser notre vie. Alors c'est vrai que c'est extrêmement élégant. C'est extrêmement élégant, c'est séduisant. Le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est que le monde, alors le monde, on ne peut pas le connaître, on peut le penser, mais quand même les astrophysiciens, depuis ce philosophe, ils ont fait plein de travaux scientifiques qui font qu'aujourd'hui, quand même, c'est dur de dire qu'on peut penser le monde et qu'on ne peut pas le connaître. Le Big Bang, par exemple, ce truc-là, bon, c'est des représentations, enfin, c'est de la science. Donc bien sûr, c'est à l'intérieur, on le verra tout à l'heure, c'est à l'intérieur d'un cadre théorique, mais enfin, le Big Bang, c'est une façon de se représenter le monde extrêmement économique et extrêmement éclairante, et avec très peu de mots, qui permet tout d'un coup de comprendre, quand on lève les yeux le soir et qu'on voit les étoiles, et bien de faire que c'est moins mystérieux qu'à l'époque de ce philosophe. Et alors, quand il dit le moi, on ne peut pas le connaître, on peut le penser, mais ça, c'est lui qui le dit aussi. Et c'est vrai que les neuroscientifiques aujourd'hui, les scientifiques qui font de la psychologie cognitive, eh ben, ils font de la science avec le moi, avec la pensée, et on trouve des trucs, quoi. On trouve des trucs. Et ça, c'est vraiment un des un défaut qu'ont pas mal de philosophes, c'est de s'arrêter à des considérations, à s'arrêter à des niveaux d'observation qui sont un peu quotidiens. Je vous donne un exemple concret que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Deux philosophes qui parlaient de la morale. Alors on a vraiment l'impression que la morale, on ne peut pas faire de science avec. Hein. Le bien, le mal, pourquoi? Alors, ils disaient, oui, alors, j'ai perdu un porte-monnaie chez mon boulanger, et puis je reviens le lendemain, et il me dit, vous avez oublié votre porte-monnaie, il le rend. C'est bien, voilà, il a fait quelque chose de bien. Alors, pourquoi l'a-t-il fait, etc. Ils disent, il n'y a pas de réponse à ça, quoi. Il l'a fait, c'est bien, on peut le constater, on ne peut pas aller au-delà en termes d'observation. Mais c'est pas vrai du tout. Je vais même dire un truc horrible qui va vous faire bondir. On peut faire de la génétique de la moralité. On peut très bien prendre des boulangers qui sont des vrais jumeaux, qui sont des faux jumeaux. On les met dans une situation où on laisse un porte-monnaie sur le comptoir et on va regarder s'il y a une différence de corrélation entre le fait que quand un jumeau rend le porte-monnaie, l'autre jumeau rend aussi le porte-monnaie. Est-ce que cette association est plus importante chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux? Et si c'est le cas, eh bien, ça sera un argument, ce ne sera pas la vérité, hein. Ça sera un argument en faveur du fait qu'il y a possiblement une prédisposition génétique à avoir un comportement moral. C'est horrible de dire une chose comme ça. Hein. Ça vous voyez, c'est horrible. Et j'en reviens à mon introduction. Il y a des quiproquos et il y a des choses qui dérangent dans ces limites. Mais si on regarde les choses froidement, restons-en à l'observation, pas à l'interprétation. Attention, on y reviendra tout à l'heure. Restons-en au niveau des observations. J'ai pris des vrais jumeaux, j'ai pris des faux jumeaux. Je les ai mis en face d'une situation expérimentale qui était, je laisse un porte-monnaie et je regarde s'il le rend ou pas. Eh bien, il faut bien constater que j'ai fait de la science avec quelque chose qui a à voir avec le comportement moral. Alors, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce que ces philosophes ont raconté à propos de, des limites à l'utilisation de la raison dans la création de connaissances? C'est quand même pas très satisfaisant, je trouve. Le point clé, c'était logos, mutos. Effectivement, il peut y avoir un accès direct, immédiat, intuitif à la connaissance dans les films, dans les poèmes, dans des tableaux, encore plus immédiat, hein, on voit. Le cri de Munch, vous savez, hein, ce tableau, cet individu qui traverse un pont et qui tout d'un coup... C'est absolument prodigieux, comme on a l'impression de vivre une espèce d'attaque de panique ou de moment déréalisant, rien qu'en voyant, ou certains tableaux de Van Gogh, hein, où on a l'impression qu'il y a un truc un peu, une espèce de malaise à la limite de la psychopathologie. Hein. D'ailleurs, ça a été très étudié, hein, la psychopathologie de Munch ou de Van Gogh. Donc oui, il y a un accès immédiat, comme ça, à ce qu'est la psychopathologie. D'ailleurs, les cliniciens l'utilisent au quotidien. Hein. Il y a des travaux qui ont montré qu'entre le moment où on serre la main d'un patient dans la salle d'attente et le moment où on a le premier diagnostic, il se passe moins de 3 minutes. Vous voyez, alors on peut dire, c'est facile la psychiatrie, s'il faut 3 minutes. Non, c'est pas ça, c'est que c'est la condensation d'une énorme expérience qui fait qu'effectivement, tout d'un coup, on voit le tableau et puis qu'on a besoin d'une demi-heure après pour parler avec le patient, pour affiner avec la sémiologie le tableau clinique et puis pour l'aider à aller mieux en parlant, petit à petit, on a un travail psychothérapeutique avec un petit P quand c'est de la clinique au quotidien sans prétention. Donc oui, bien sûr, en santé mentale, il y a cette acquisition des connaissances globales. Et puis, il y a les neuroscientifiques qui, eux, ont une approche plus rationnelle, plus systématique, plus analytique. Certes, mais ça ne nous dit pas s'il y a des limitations à l'une ou à l'autre. On ne dit pas ça. Et je n'ai pas trouvé de travaux. Ah, on le dit souvent. Hein. On dit, le poète dit des choses que le scientifique ne peut pas aborder. Ben, on le dit. Mais je n'ai pas de contre-exemple à vous proposer aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Hein. On n'a pas fini là. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a quand même une piste, c'est la globalité. C'est que la science réduit et que le tableau, lui, capture dans la globalité. Et donc là, il y aurait une limite. Eh ben non, c'est pas vrai non plus. Je vous avais dit, il y a ce qu'on appelle le concept de propriété émergente. Donc il y a des théories scientifiques qui partent du microscopique pour essayer de construire des choses qui émergent. Alors un exemple, un peu comme ça, c'est la physique statistique. Vous voyez qu'on définit une pression, la température. Qu'est-ce que la température ? C'est une propriété. C'est très difficile de définir ce que c'est qu'une température. Subjectivement, c'est chaud ou c'est froid, ça on sait. Mais physiquement, eh bien, c'est une espèce de propriété émergente. C'est que les physiciens sont partis de trucs tout petits, donc de particules qui forment un gaz, et qui espèces de petites billes qui ricochent les unes sur les autres. Et puis, avec des modèles, et grâce aux mathématiques, ils arrivent à faire émerger des concepts qui sont des concepts très globalisants. Hein. La température, c'est pas de la réduction, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement global et macroscopique, obtenu à partir de choses microscopiques. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des approches neuroscientifiques qui relèvent du même type de conceptualisation. C'est ce qu'on appelle le courant connexionniste, qui considère que le cerveau est une espèce de gaz, mais pas homogène et pas isotrope. Vous voyez, c'est-à-dire que les neurones sont allumés ou éteints, ce qui est un peu le cas physiologiquement, c'est très brutal de dire ça, mais de dire que les atomes sont des petites billes, c'est très brutal aussi. Hein. Donc les neurones sont éteints ou allumés, et les neurones sont plus ou moins liés les uns avec les autres. Et donc vous avez effectivement un cerveau qui peut être considéré comme un nuage de particules scintillant, éteint, allumé, et puis au fil du temps, ce nuage peut converger vers quelque chose, et on peut montrer que on peut définir une entropie, une énergie d'un cerveau, et on peut montrer de cette façon que un cerveau converge vers un état qui correspond à un minimum énergétique. Vous voyez, une façon complètement globalisante de décrire le fonctionnement psychique. Alors c'est pas à la mode, certes, c'était à la mode dans les années 70-80, c'est pas à la mode, et dans la science il y a des modes, faut être clair là-dessus, il y a des théories prégnantes, et puis ça dure un temps, et puis après c'est d'autres théories qui sont prégnantes. Donc non, la science ne réduit pas nécessairement, la science peut aussi être globalisante. Aujourd'hui nous sommes dans une science de réduction, certes, ça a des avantages et des inconvénients. Et la science d'aujourd'hui a des limites, naturellement, on va y venir tout à l'heure. Mais ça n'est pas des limites à la science en général. Alors, c'est vrai, donc on n'a pas de réponse à cette question, existe-t-il des limites à l'approche scientifique ? Alors, arrivons au XXe siècle, cette question a été abordée par, là ce coup-ci, c'est plus vraiment des philosophes, c'est par des scientifiques. Des scientifiques dans trois champs différents se sont posés un peu cette question. Alors, un peu, vous allez voir, un peu. C'est quand même, c'est à la façon scientifique, c'est-à-dire on isole, on essaie de réduire cette question à un truc microscopique, mais que l'on va pouvoir capter. Et l'avantage, c'est qu'ils ont des réponses qui sont absolument fabuleuses de portée. Donc il y a eu les logiciens, les physiciens des particules et les économistes. Alors les logiciens, il y a un théorème absolument prodigieux du XXe siècle, qui est une vulgate de la logique et qui est une tarte à la crème, enfin qui est quand même superbe, ça s'appelle le théorème de Gödel, qui dit que dans un système logique donné, eh bien il y a des propositions vraies qui sont indécidables, c'est-à-dire on ne pourra jamais montrer qu'elles sont vraies ou fausses, alors qu'on sait qu'elles sont vraies. C'est complètement... Donc c'est une limite à l'approche... Vous voyez, c'est un système logique, quand on travaille à l'intérieur de lui-même, il y a des propositions qui sont indécidables, alors qu'en fait on sait qu'elles sont vraies. Donc quelque part c'est une limite essentielle à l'opérationnalisation. On pourrait se dire alors mais comment on sait qu'elles sont vraies puisqu'on ne peut pas le démontrer. En fait la démonstration, je peux vous la dire en deux minutes, elle est très complexe techniquement mais très simple dans son principe. Gödel il a numéroté toutes les démonstrations mathématiques. Les démonstrations mathématiques c'est des phrases donc on peut les numéroter. Et puis il a trouvé une démonstration, la démonstration numéro P. C'est son numéro. Et cette démonstration, cette proposition numéro P, elle dit la proposition numéro P est indécidable. Voilà, c'est comme ça. La proposition numéro P est indécidable, c'est une proposition. Et il se trouve que cette proposition, elle a le numéro P. Eh bien, il a démontré que cette proposition était indécidable. Donc elle est vraie. C'est et on ne peut pas dire le contraire, vous voyez. Sauf que vous le dites d'un regard extérieur, c'est-à-dire quand vous vous dites, il a démontré que la proposition numéro P était indécidable, mais la proposition numéro P, elle le dit, la proposition numéro P est indécidable. Donc c'est vrai, donc elle est vraie. Mais c'est pas à l'intérieur du, c'est pas démontré à l'intérieur du système. C'est nous qui le voyons qu'elle est vraie, et personne peut dire le contraire. Personne. Alors les physiciens.